T'écoutes Radio Giro.
Et bienvenue à tous, et vous écoutez Radio Girol, et nous sommes en direct comme tous les seconds jeudis du mois. Alors sauf le mois dernier, on tient à s'excuser parce que nous avons eu personne pour la radio, nous avions aucun animateur, donc nous n'avons pas pu assurer l'émission et nous en excusons. Voilà, au programme ce soir, nous allons parler de l'agenda, nous allons parler de Parcoursup d'une manière générale, je crois, les projets étatiques au niveau de l'informatique avec Mathis. D'ailleurs, bonsoir Mathis.
Oui, bonsoir Yorick, et les rapports au vitriol de la Cour des comptes sur Parcoursup, on en reparle.
C'est ça. Et nous allons parler aussi avec Duponin. Oui, mais tu n'as pas de micro. Et tu n'as pas de casque. Là, tu as un micro normalement, ça y est.
Coucou, c'est moi, c'est bon, on m'entend maintenant ?
On t'entend, un peu fort, mais voilà. Nous allons parler avec toi du FOSDEM, parce que tu es allé en Belgique et tu as rencontré plein de monde sympathique au FOSDEM. Tu nous feras un petit retour et on va parler de Pléroma.
Exactement.
Et les deux sont liés, on verra ça tout à l'heure. Côté musique, on s'écoutera le nouveau morceau de Paul Emmanuel. Alors pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous savez qu'on l'aime beaucoup, Paul Emmanuel, parce que c'est une seule personne, et qu'il est déjà d'ailleurs venu en concert avec nous il y a de ça 3-4 ans. Nous l'avons fait venir dans les bibliothèques de Bordeaux pour assurer un petit concert de musique libre, et on écoutera son nouveau morceau qui s'appelle Phoenix. On va commencer par l'agenda. Alors, c'est toujours les mêmes. Alors, on n'a pas la bulle. La bulle, il n'y a rien. On n'a réussi à avoir aucune info. Par contre, l'UNBI, il y avait une install party plus un coding goûter le 22 février. Mais ça s'est déjà passé. Et une permanence du libre ce vendredi, demain, de 18h30 à 20h30 à l'école élémentaire du Burk. À Kilonet, c'était le mardi, c'est permis, mais c'est passé. C'était mardi prochain, le 3 mars. Prochain rendez-vous, mais ça sera le premier mardi du mois d'avril, c'est-à-dire... Laissez-moi juste le mardi 7 avril. OpenStreetMap, le groupe bordelais, c'est le second lundi de mars. Donc, ça sera cette fois-ci en avril et ça sera le 13 avril. Côté la Cubale, il y a la wiki permanence à Mériadec. C'était le 29 février et du coup, c'est passé. Et est-ce qu'il y en a une autre à annoncer ?
C'est le 25, il me semble, ou le 24, le dernier samedi du mois. En fait, tous les derniers samedis de chaque mois.
Voilà.
Alors, il me semble avoir lu, j'ai plus en détail ce mois-ci, mais il me semble avoir lu que c'est pas dans la salle habituelle, mais c'est toujours à la bibliothèque Mériadec.
Voilà, ça sera le lundi ?
Le samedi, c'est le dernier samedi de chaque mois, de 10h30 à midi.
D'accord, ça sera donc le 28 mars. Voilà, côté agenda. Et nous allons de suite passer à Parcoursup. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Si en plus vous êtes étudiant, ça a dû vous hérisser les poils de tous bords. Ce logiciel fabuleux que défend notre gouvernement, ceci étant dit, qu'est-ce qu'il ne défend pas, surtout quand ce n'est pas génial, et qui a été fustigé par la Cour des comptes.
Eh oui, alors... Excusez-moi, je me faisais tirer la salle. Alors oui, la Cour des comptes qui valide, bon, un peu a posteriori, mais ça c'est le temps de l'analyse, quasiment toutes les critiques qui étaient mises par les opposants à Parcoursup. Code source de mauvaise qualité, sécurité totalement à revoir. Dans le détail, bon, la Cour des comptes commence son analyse en disant que la réponse de Parcoursup à la massification de l'enseignement supérieur est une réponse bienvenue. Cependant, Parcoursup souffre de lourdeurs et de fragilités héritées d'APB et reste exposé à de nombreux risques. La direction de la plateforme est totalement déconnectée de la gouvernance de l'orientation. Il n'y a pas de concertation entre la gouvernance de l'orientation et la plateforme. Donc c'est un peu problématique quand même, hein.
Oui, surtout que la plateforme est faite pour orienter les élèves. Si jamais on ne se met pas d'accord avec ce qui est possible de faire en orientation, effectivement, on va un peu droit au mur.
Ouais, un peu beaucoup. Non, voilà, toutes les critiques qui étaient faites. Donc, le système est beaucoup trop peu transparent. Il y a les données collectées, elles sont collectées, on n'en fait rien. Il n'y a pas de valorisation des données collectées, ou en tout cas, beaucoup trop peu. Et c'est des données dont le potentiel est considérable. Alors après, les données collectées, c'est des données collectées, c'est des données privées. C'est-à-dire qu'on collecte des données, donc on porte quelque part atteinte en partie à la vie privée. On pourrait au minimum s'attendre à ce qu'on en fasse quelque chose. Et en fait, là, on nous dit on collecte des données pour rien. La Cour des comptes nous dit non seulement on collecte des données privées, enfin, personnelles, mais en plus, on les collecte pour rien, puisqu'elles ne sont pas utilisées ensuite.
Mais elles sont stockées.
Mais elles sont stockées, évidemment. La Cour des comptes a fait analyser par des sociétés spécialisées le code source de Parcoursup.
Et là, c'est très croustillant.
Parcoursup se situe à un niveau de qualité plus faible que d'autres logiciels d'ancienneté similaires. Et, excuse-moi, j'ai perdu le fil. L'application Parcoursup présente une qualité médiocre, avec un niveau de risque élevé et de nombreuses violations critiques identifiées. Alors, comme d'habitude, on n'a pas préparé. Hein. On prépare jamais, de toute façon, sur Radio Giro, vous êtes habitués. Donc, la Cour a dû s'en remettre au responsable du pôle informatique, car principal architecte du système d'information, il est l'unique mémoire du patrimoine de la plateforme. Donc, c'est-à-dire que la Cour, l'architecte du logiciel, la société qui auditait le code était incapable de comprendre le code.
Alors que quand on s'en place dans une démarche professionnelle, le principe d'écrire du code, c'est de justement pouvoir le pérenniser par une relecture facile du code, surtout facile pour les professionnels.
Et quand on se place dans le périmètre du logiciel libre, le principe c'est de pouvoir auditer le code par tout le monde et que tout le monde puisse l'améliorer.
Voilà. Et même, enfin, dans le cadre plus spécifique du logiciel, apprendre en lisant le code, continuer à apprendre. Là, il est cryptique. On peut parler de code cryptique avec, je crois que j'avais vu des choses autour des variables qui dans leur nom, ne représentent même pas ce qu'il y a à l'intérieur.
Je vais lire justement ce paragraphe du rapport qui est assez hallucinant. À titre d'illustration, les quelques 1000 tables et 12 000 variables que contient Parcoursup sont nommées selon une logique thématique avec l'emploi d'un code lettre. La dénomination des tables et variables est obscure, si bien que le recours à l'intuition et à une démarche essai-erreur se révèle nécessaire pour retrouver la logique qui sous-tend les tables et leur articulation. Donc, on ne peut pas, en lisant le code, comprendre ce qu'il fait. C'est quand même assez hallucinant.
Là où c'est hallucinant, c'est que on peut décemment penser que l'équipe de développement derrière a dû aussi avoir recours à essai-erreur pour pouvoir arriver à le développer. C'est-à-dire que le logiciel, en fait, on peut imaginer que son développement, c'est une suite d'essais et une suite d'échecs.
Alors, on peut surtout penser, là c'est le développeur qui parle, on peut surtout penser qu'en fait, le développement a été fait à la va-vite, sans concertation dans l'équipe de développement et que chacun a codé un peu sa fonctionnalité et ensuite on a essayé d'intégrer tout ça avec du gros scotch. Voilà, c'est avec du gros sparadrap et essayer de faire que ça fonctionne à peu près comme on l'attend. Et je pense sincèrement que c'est ça. C'est-à-dire que c'est des morceaux collés ensemble, peut-être même encore du code d'APB, on ne sait pas, hein, puisque le code n'est pas public, ni de l'un ni de l'autre. À l'exception, il me semble, de l'algorithme de classement qui a été rendu public.
Sous forme de papier imprimé.
Oui.
Oui.
Non, oui. Et qui a été rendu public parce qu'il y a eu des pressions de toutes parts.
Parce qu'il y a eu des pressions de toutes parts.
Et qu'ils ont été obligés.
Après la fin des admissions. C'est-à-dire qu'une fois, c'était en septembre ou en octobre, je crois, le ministère, une fois que tout était fini, a publié effectivement les algorithmes qui ont servi à classer les élèves, qui évidemment vont changer. Il y a forcément quelques corrections à faire. Et donc, en fait, on n'a pas les algorithmes à l'avance et on ne sait pas à l'avance comment sont classés les élèves. Et c'était uniquement l'algorithme de classement des élèves de Parcoursup. C'est-à-dire que chaque université ou chaque formation pouvait décider d'avoir ses propres algorithmes de classement qui, eux, évidemment, ne sont pas publics, y compris pour l'établissement public.
Ce qui n'est pas censé poser problème, puisque on peut tout à fait s'imaginer qu'un président d'université peut faire de la ségrégation ou pour éviter d'avoir dans son université tel ou tel type de population qu'il jugerait indésirable ou tel type de profil. Étant donné que ce n'est pas public, les présidents d'université ou d'école pourraient se permettre ce genre de comportement indésirable.
Et on peut d'autant plus l'imaginer qu'on rappelle que les étudiants doivent mettre un CV qui, me semble, doit contenir une photo. Donc, on est quand même à un certain niveau de possible dérive.
Ceci étant dit, de l'autre côté du miroir, on peut se dire, oui, mais à partir du moment où l'algorithme est public, on aura toujours des petits malins qui vont pouvoir se débrouiller pour pouvoir obtenir un CV ou un profil qui corresponde hacker l'algorithme pour pouvoir...
Alors, on en revient toujours au principe de base, c'est-à-dire que l'algorithme de Gall-Chaplet, l'algorithme qui a été appliqué en grande partie, pas totalement, mais en grande partie dans APB, est supposé être insensible à la triche. C'est-à-dire que cet algorithme, est on n'est pas supposé pouvoir tricher avec, on est supposé pouvoir classer, alors à l'époque on classait ses vœux, pouvoir classer ses vœux sans se préoccuper de la façon la façon dont l'université sélectionne. C'est un algorithme qui était supposé être résistant à la triche. Et bon, c'était pas totalement le cas parce que dans APB il y avait la priorité aux personnes qui habitaient dans l'académie. Donc ça c'était l'entorse à Gall-Chaplet. Bon, on pourrait parler de l'algorithme de Gall-Chaplet, mais c'est pas forcément le sujet. Mais tout ça pour dire que on est passé d'un algorithme qui était en théorie impossible à
contourner.
À contourner, même si en fait il l'était un peu, à un algorithme qui, c'est même plus un algorithme, à des sélections qui peuvent être par algorithme ou qui peuvent être manuelles, on ne sait jamais, et qui ne sont pas publiques. Mais, il y a plus grave, on a commencé que l'entrée. Sur la sécurité, le constat est dramatique. Parcoursup ne dispose d'aucune politique de sécurité des systèmes d'information, alors qu'il a été reconnu comme opérateur de services essentiels par le Premier ministre. Donc il n'y a aucune sécurité des données collectées, encore une fois on rappelle données personnelles, qui ne sont pas sécurisées, donc a priori le logiciel pourrait être hacké, craqué, et
les données des
étudiants détournées, revendues.
On peut porter plainte auprès de la CNIL pour la RGPD à ce niveau-là.
Mais effectivement, la conformité au RGPD, on n'en est pas sûr que ça soit le cas. En premier lieu, l'ancienneté des données de scolarité disponibles sur la base active de Parcoursup excède largement les besoins déclarés par le MESRI concernant la finalité du traitement des données à caractère personnel. Par ailleurs, les scolarités sont connues de manière exhaustive 4 années avant l'année d'affectation pour plus de 800 000 candidats. Le stockage de cette information est-il conforme au regard du principe de minimisation des données défini à l'article 5C du RGPD ?
Exactement, parce que la CNIL l'a bien rappelé et le rappelle souvent à des gens d'entreprise qui essaient de mettre des bâtons dans les roues aux gens qui font des demandes RGPD. Le principe est non seulement la minimisation des données, mais en plus la minimisation des données demandées lorsque quelqu'un demande à avoir accès à ces données. Je donne moi l'exemple qui m'est arrivé avec une boîte de crédit qui me démarche depuis longtemps et qui refuse de m'enlever. Ils m'ont demandé systématiquement une carte d'identité pour pouvoir avoir accès à mes données, ce que la CNIL réfute. Sauf s'il y a effectivement un besoin fort d'identification, dans le cas où j'aurais été client de cette société de crédit, effectivement, ils vont me donner des données extrêmement sensibles sur des crédits, si j'en avais fait bien sûr, que j'aurais souscrit auprès de cet organisme. Là, ça devient sensible et effectivement, on peut comprendre qu'une carte d'identité soit demandée. Quand la carte d'identité vous est demandée parce que vous êtes dans un fichier prospect, ce n'est pas possible. Et ce principe est valable pour l'ensemble des données collectées.
Bon, il y a un des titres, le deuxième manque du chapitre 2, qui est quand même assez explicite. Je cite « Une performance globalement semblable à celle d'APB ». Bon, on a envie de dire tout ça pour ça.
Oui, exactement. Sans compter le nombre de problèmes que ça a posé, de performance, d'oubli d'affectation, de vœux qui n'étaient pas respectés.
Bon, en fait, c'était un peu l'impression qu'on avait. C'est-à-dire qu'à la fin août, on a eu effectivement l'impression qu'il y avait à peu près autant en pourcentage d'élèves que l'année précédente qui n'étaient pas affectés. Et l'impression qu'on avait, c'était qu'en fait, on a fait tout ça juste parce que la CNIL avait rendu un avis quelques mois auparavant qui disait qu'il devait y avoir de l'humain dans le traitement des dossiers et que ça ne devait plus reposer uniquement sur un algorithme. Pardon, excuse-moi pour la façon de le prononcer.
Enfin, et du coup, pour l'instant, pas de réponse des instances qui s'occupent de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
Alors, l'instance qui s'en occupe, le MESRI, a répondu qu'il n'est pas possible en l'état de publier davantage le code de l'application en raison des failles de sécurité susceptibles de porter atteinte au système informatique du ministère et de la présence de lacunes dans la documentation du code. Parce qu'on n'a pas parlé de la documentation encore. La documentation... Alors, la Cour des comptes dit, bon, déjà, elle existe, c'est une bonne chose. Mais elle n'est ni exhaustive ni correcte. Donc, en fait, la documentation est à côté de la plaque, ne sert à peu près à rien. Et c'est, encore une fois, fait à la va-vite.
Voilà. ce qui laisse présager des choses très très bon, très très bonnes, pardon. On pourrait mettre ça en relation avec effectivement le fameux fichier TES. Hein, je vous rappelle le fichier qui doit nous, le fichier, l'anneau unique du fichier informatique de l'État qui doit nous ficher tous. Et on est à même de se demander si l'État est capable de faire un logiciel correct, un logiciel qui plus est qui conserve nos données personnelles. Là, pour le fichier TES, en plus des titres des titres électroniques sécurisés qui contient des données extrêmement sensibles, passeport, carte d'identité, avoir Parcoursup, on peut se demander si l'État est capable de nous pondre quelque chose de suffisamment correct pour pouvoir remplir les finalités de sécurité derrière ces fichiers informatiques.
Bah, dans, a priori, dans ce domaine, ça a l'air d'être le cas. Après, dans d'autres domaines, l'État est tout à fait capable de faire des logiciels qui sont
acceptables.
Oui, acceptables, même puissants. Même il y a des logiciels de l'État qui sont puissants. C'est pas forcément un souci. Mais effectivement, on voit dans le domaine de l'éducation, alors c'est peut-être une volonté politique.
Dans le domaine de l'éducation, on peut tous se rappeler le fameux fichier, le fameux logiciel de paye. En plus, ça peut te parler puisque tu es en plein dedans. Le fameux fichier de paye qui devait remplacer donc un ancien qui devait faire des miracles et au final, on s'est retrouvé avec des gens pas payés avec un logiciel qui a coûté extrêmement.
Alors, je pense que tu confonds avec l'armée.
Ah oui, c'était l'armée.
C'est l'armée. Et alors, ce logiciel est en train d'être remplacé par un nouveau logiciel qui, lui, a priori, fonctionne très bien. Et qui est en développement. Alors, il a été, je crois, déployé dans la marine et doit l'être prochainement dans l'armée de l'air ou l'inversement. Et l'armée de terre suivra. Enfin, en tout cas, il a été déployé dans un corps d'armée. Un autre doit suivre cette année. Et le suivant, je crois, en 2021 ou 2022. Et a priori, le logiciel donne entière satisfaction.
Ce qui laisserait penser que, d'une part, ils font un déploiement, effectivement, dans certains corps d'armée doucement. Donc, on est sur une pratique qui se veut un peu plus correcte. C'est-à-dire, on déploie au fur et à mesure. Jamais tout le système d'information en une fois. Et effectivement, peut-être qu'ils ont appris de leur erreur.
Et on peut rollback. Important, on peut rollback quand on déploie.
Il faudra peut-être envoyer des gens de l'armée à l'éducation nationale. Quand on le dit, c'est un peu paradoxal. Mais...
Allez, quelques petites statistiques intéressantes. Sur le nombre de fichiers, on a un peu plus de 2700 fichiers en tout. 2% sont ouverts, donc 2% sont publics, donc sont libres, ou enfin, même pas forcément libres, au moins open source.
Open source.
Et en nombre de lignes de code, c'est 1%, donc il y a 870 000 à peu près lignes de code.
Ce qui est, ma foi, pour un projet d'envergure comme ça, qui peut paraître relativement petit en fait.
C'est pas forcément énorme, effectivement.
Avec ou sans les tests unitaires?
Alors, je pense que c'est sans les tests unitaires. C'est du SQL et du Java. Ça mêle SQL et Java. Et il y a 8600 lignes ouvertes de code pour 861 000 fermées.
Donc c'est quand même assez
inquiétant. Et d'ailleurs, la Cour des comptes souligne le code qui est public est d'un intérêt très limité. Le maître n'a rendu public que certains éléments algorithmiques. En effet, le code source de l'application Parcoursup remplit deux fonctions principales. Donc il y a les éléments du code qui vont interagir avec les acteurs locaux, donc par exemple les conditions, les commissions d'examen des vœux, les services de rectorat et les éléments de code qui, à partir des classements opérés, produisent le résultat. Et seule cette dernière partie a été rendue publique. Donc c'est d'un intérêt limité pour assurer la transparence du système, nous dit la Cour des comptes.
Bon. Merci beaucoup Mathis pour nous avoir épluché ce rapport de la Cour des comptes. On va se faire une petite pause musicale et on reviendra avec toi Duponin sur le FOSDEM ou sur Pléroma, comme tu veux.
Les deux
mon ami. Et comme je le disais en introduction, nous allons écouter le nouveau titre de Paul Emmanuel, Phoenix, sur Radio Girol, mais aussi sur Radio Station Essence.
Radio Station Essence, c'est trop bien. Ça vous fait plein d'amour. J'écoute de la musique qui est dans sa radio.
Brilho do Fênix, para mim te boa, lua do Majara pipi aqui. exhale la flamme, tes yeux sont la foudre, ton sang le magma. Tu rayonnes si chaud que bouillonne la sphère, tout fait ton aura. Un dragon aux entrailles surveille mes pas, mais ne les retient pas. Je n'ai Dieu que pour toi, au phénix des bois. J'emprunterai mille chants et me chanterai mille fois, juste que tu me vois. Pour une de tes plumes, je brûlerai les miennes et ne regretterai pas. Je braverai la braise et la savourerai, c'est jusqu'au trépas. Si jamais c'est la voix, au phénix des bois. Tu es l'ange écarlate, le soldat de feu, la forêt est à toi. Si tu poses ta marque, ce même en un jour ne te défie pas. Mais telle est la chaleur et personne jamais ne la refusera. Si jamais c'est ton choix.
Listen to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. C'était Paul Emmanuel Phoenix sur Radio Girol et Radio Station Essence. Alors, nous allons parler du Fosdem parce que tu y es allé.
Tout à fait.
Et tu as rencontré des gens hyper sympas.
Naturellement.
Voilà, les livristes, il y a toujours des gens cool. Pas que, mais il y a.
Il y a des gens cool, oui.
Il y a des gens cool. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est le Fosdem ?
Alors le FOSDEM, c'est un événement, un des plus gros événements du libre, oui c'est ça, du libre d'Europe, qui a lieu à l'Université Libre de Bruxelles, le premier week-end de février.
Donc c'était il y a un mois.
C'est ça, il y a un peu plus d'un mois, un mois et 10 jours, hein, on va pas chipoter dessus, mais voilà.
Et tu as fait le voyage en train ?
C'est ça, après quelques heures de train, on vit 4 heures à 5 heures à peu près, le temps de faire la correspondance à Paris. Et voilà.
Alors, pour faire languir un peu nos auditeurs, déjà la ville, comment c'est Bruxelles ?
Bruxelles, c'est une ville assez dans son jus, un peu comme Bordeaux, on va retrouver des bâtiments historiques un peu plus, comme c'est une capitale, contrairement à Bordeaux. Bon, c'est la capitale du vin, Bordeaux, certains diront.
Dit Chauvin aussi.
Donc oui, c'est plutôt une ville assez sympa. Il y a toujours la rue dont j'oublie le nom, où tout le monde se retrouve avant d'aller au FOSDEM, la soirée du vendredi soir, où il y a que des barres d'élyrium sur 20-30 mètres. Donc pour les personnes qui aiment la bière, vous serez servi.
Bon, et le FOSDEM alors, ça dure 2 jours, 3 jours?
Ça dure 2 jours, le samedi et le dimanche. Ça commence le samedi à 9-10 heures, j'ai plus le souvenir. Et ça finit le dimanche à 17 heures à peu près.
D'accord. Ça draine une communauté, enfin des gens qui font partie de la communauté de l'open source du monde entier, puisque moi j'ai des gens que je suis sur Mastodon notamment, qui vivent aux États-Unis, qui font le voyage chaque année. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ? Est-ce que vraiment on peut dire que la communauté du libre est une grosse communauté ?
Étant donné que c'est sur plusieurs bâtiments que j'ai découvert des bâtiments le dimanche juste avant de partir. Oui, c'est très grand, donc c'est un peu dur de juger s'il y a beaucoup de monde ou pas. Mais oui, on était sur plusieurs milliers de personnes. Il n'y a pas de personne qui compte à l'entrée ni de billets achetés parce que l'entrée est libre et gratuite. Et ils enregistrent sur le réseau Wi-Fi les adresses MAC pour estimer le nombre de personnes qu'il y a. Et ils estiment, je crois, 4000 personnes, voire plus.
D'accord, sachant que c'est un salon qui est avant tout réservé, enfin, qui s'adresse plus aux développeurs de solutions open source.
Développeurs, mais pas forcément, c'est tout ce qui touche au monde du libre et open source.
Bon, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant du coup là-bas ?
Il y avait des conférences très intéressantes sur Elixir, qui est un langage que j'apprécie depuis plusieurs mois, bientôt un an. J'en parlerai pas parce que je vais m'étaler pendant des heures. Des conférences sur des protocoles comme Quick, des solutions nouvelles, des gestionnaires de fichiers de configuration et de déploiement.
Comme Ansible ou Salt.
C'est ça, là c'est ConfigMGMT qui est un ancien de chez Red Hat qui était un peu saoulé du monde de déploiement de fichiers de configuration dans lequel on est, où il n'y a pas vraiment de choses qui sont satisfaisantes, et je le comprends. Et il a construit le sien, je le comprends, je ferai pareil. Et sa démonstration était intéressante parce qu'il comparait un peu toutes les solutions qui existaient pour montrer les points forts et les défauts les unes des autres.
Bon.
Voilà. Et il y avait aussi des stands, par exemple de LibreOffice, FreeBSD, j'ai un super t-shirt. Docker, il me semble, enfin Matrix, c'était assez exhaustif. Enfin, il y avait beaucoup de choses.
Et tu me racontais, toi, parce que tu m'as déjà fait un petit topo, que tu as rencontré des gens vraiment, enfin des personnes assez intéressantes.
C'est ça, j'ai passé, comme je le dis souvent, un de mes meilleurs week-ends de ma vie, mais ça je le dis à chaque fois. Je l'ai dit la dernière fois lors de l'AG de la FFDN. Donc oui, j'ai croisé des gens du fait divers, et plus particulièrement des développeurs et mainteneurs du projet Pléroma, j'avais parlé, il y avait quelques radios.
Voilà, écrit en Elixir.
C'est ça, c'est le langage qui m'a fait découvrir le projet qui m'a fait découvrir le langage Elixir.
Alors, on va juste rappeler pour nos auditeurs ce qu'est Pléroma.
Bien sûr, je vais le faire. Pléroma est un logiciel du fait divers. Donc le fait divers, c'est la fédération, l'univers de la fédération. Ce sont plein de logiciels différents, des instances, qui sont sur des logiciels identiques ou non. Par exemple, il y a Mastodon, Pléroma,
Pixelfed,
Miski, et bien d'autres encore, Diaspora, et qui ont un un protocole en commun qui permet, ActivityPub, qui permet de s'échanger les données entre eux pour éviter d'avoir un serveur central qui concentre toutes les données des gens.
Voilà. On peut s'en servir pour s'envoyer des messages courts de type Twitter, en fait.
C'est ça, du microblogging.
Du microblogging ou du blogging, tout simple, parce qu'il y a des logiciels, ou de la photo, ou même de la vidéo. Hein. Il y a un clone, enfin un concurrent à YouTube.
Une alternative.
Une alternative à YouTube qui utilise le protocole du fait divers et qui, en plus, permet d'être totalement décentralisé.
C'est ça. Et il y a même des logiciels de blogging comme Plume, WriteFreely, ou même le fameux... logiciel en PHP que tout le monde apprécie pour faire des blogs.
WordPress.
Voilà. Il y a un module pour ça.
Et du coup, il y a même des forges logicielles qui arrivent, qui utilisent le fait divers.
Sûrement, je ne les connais pas encore. Mais...
Et il y a des travaux qui sont...
Les travaux, c'est un gros sujet, mais ce n'est pas encore présent.
Du coup, toi, tu as rencontré des développeurs et mainteneurs du projet Pléromain.
Exactement.
Qui sont... Enfin, c'est une équipe internationale.
C'est ça, c'est écrit par une personne allemande de base, mais on retrouve des Russes, des Français, des Américains. Il me semble même qu'il y a des Japonais, mais je n'ose pas trop m'avancer. Mais c'est vraiment un projet qui est international.
Voilà, et toi, tu as rencontré une partie de cette équipe alors au FOSDEM.
C'est ça, une bonne partie de l'équipe, en tout cas des corps mainteneurs, donc des mainteneurs principaux qui étaient présents au FOSDEM et qui sont tous extra.
Voilà, tu as passé le meilleur week-end de ta vie.
C'est ça, tout à fait.
Du coup, quelle suite a donné à ta visite au FOSDEM, notamment avec l'équipe de Pléromain? Est-ce que tu gardes contact avec eux? Est-ce que tu prévois, toi, de participer au logiciel?
Bien, je les suivais déjà sur, pas Mastodon, mais Pléromain. J'ai pu découvrir de nouvelles personnes, renforcer des amitiés que j'avais déjà avec d'autres. Après, moi, je ne suis pas développeur, je suis administrateur système, je sais. Personne n'est parfait, surtout les autres. Mais non, j'avais commencé à... Suite à ce week-end, j'étais en mode... c'est beaucoup trop bien, il faut que je participe encore plus à Pléromain. J'avais déjà quelques personnes à résoudre leurs problèmes, mais c'était trois fois au grand maximum. Donc j'ai commencé à écrire un installeur pour Pléromain. Sauf que Debian a complètement cassé mon installeur parce qu'il sépare, enfin, parce que Debian, ça suffit à lui-même.
Voilà. Ouais. Mais tu peux déjà participer en l'utilisant. C'est participer.
C'est ça. C'est le deuxième logiciel du Fediverse qui compte 17% des instances.
Ce qui est pas mal.
C'est ça. Et 55% des instances sont Mastodon. Voilà. Qui est le Mastodon du Fediverse.
Voilà, sachant que Pléromain, et surtout d'après ce que j'en vois moi, est surtout installé par des gens qui s'auto-hébergent plutôt que par des instances qui essayent de fédérer.
Les deux sont disponibles.
Les deux sont disponibles, mais le Pléromain est beaucoup plus léger et donc s'y est mieux à une petite installation.
C'est souvent ce qui est recommandé aux gens qui veulent s'auto-héberger, qui n'ont pas forcément de machine importante ou de gros moyens à mettre pour s'auto-héberger, c'est qu'ils se voient conseiller Pléromain, qui est beaucoup moins coûteux en ressources et permet un hébergement plus facile. Avec une communauté aussi très active qui aide et qui fait évoluer souvent le logiciel.
Sur un langage, on en a déjà parlé hors antenne, sur un langage qui est réputé pour sa solidité et sa fiabilité.
C'est ça, s'il est bien fait, comme tout, enfin, s'il est bien utilisé comme tout, et, il est très robuste et résiste très bien et évolue facilement dans le temps.
Bon. Est-ce que tu as, toi, des choses à rajouter par rapport à ton week-end au FOSDEM ou Pléromain?
Pour le week-end du FOSDEM, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'était très sympathique. J'y retournerai l'année prochaine. Du moins, j'essaierai si je ne suis pas occupé ce week-end-là. Et concernant Pléromain, qui est tout récent de ce week-end, pour le 9, si c'était ça, le 9, le
oui.
Dimanche 9, est sorti la 2.0 de Pléromain.
Voilà, une grosse version alors.
C'est ça, c'est une grosse version, oui et non, ça n'a pas tout cassé. Il y a eu suffisamment pour faire une rupture et donc passer de 1.0 à 2.0. Mais ça a amené de bons gros changements qui ont fait du bien à Pléromain.
Est-ce que tu peux nous en citer de ces changements?
Bien sûr, en cassure qu'il y a eu par rapport à la 1.0, c'est l'abandon du support du protocole qui utilise Genius Social.
OS Status,
voilà. Je ne me souvenais plus exactement. Parce que ça induisait des failles de sécurité et c'était très peu utilisé. Mais Génie Social va passer sur ActivityPub, donc ce n'est pas en soi un trop gros problème. Des améliorations ont été faites avec le front-end, l'interface de Pleroma, parce que Pleroma a deux interfaces, une qui est clonée de chez Mastodon et la sienne. Et la sienne avait des problèmes de performance qui ont été résolus. On peut maintenant mettre des emojis de réaction sur les posts qui permettent de réagir sans laisser de commentaires.
Pouce vers le haut, pouce vers le bas.
Tout ce qui est Unicode. Tout ce qui est Unicode et à terme seront supportés. Mais aucune date ni trop de choses ont été avancées, mais supporter les emojis custom des instances. Mais cela soulève de grosses questions concernant la fédération, donc ça va prendre beaucoup de temps.
Bon.
Voilà, ce sont les majeures mises à jour, on va dire, même s'il y en a d'autres qui sont plus cachées sous le capot, qui plus des modifications du code en lui-même qui n'est pas visible pour les utilisateurs.
Bon, eh bien, merci beaucoup du coup pour ce rapport du FOSDEM et pour nous avoir encore une fois parlé de Pléroma et surtout de son évolution. Nous allons nous quitter parce que nous n'avons plus d'intervenants, nous n'avons plus de musique à vous passer. Ceci étant dit, nous arrivons avec 10 minutes de retard, nous partons avec 10 minutes d'avance. Nous sommes de vrais ministres, hein, parce que je ne vais pas parler de nous sommes des ouvriers, parce que eux, les ouvriers, travaillent.
Après, on peut meubler, mais bon, c'est...
Non, mais je pense qu'on va...
grand chose à dire.
Exactement. On va vous souhaiter à tous une bonne soirée. Nous nous retrouverons en avril, le jeudi 9 avril, pour notre prochaine émission de radio, qui, espérons-le, sera un peu plus conséquente. J'espère qu'on aura un peu plus le temps de préparer tout ça.
On dit ça à chaque fois.
Mais là, moi, j'aurais fini un peu ma période d'études, donc je serai un peu plus disponible. En attendant, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés sur Girol, www.girol.fr ou sur Radio Station Essence. Merci à Guzel, du coup, de nous prêter son antenne. Et je vous dis à dans un mois.
Radio Station Essence, la radio à contresens.